Portrait de femme de notre matrimoine de tous les continents, proposé, présenté et animé par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires 04. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Aujourd'hui, nous restons en Europe, en France, au 19e siècle, puisque nous parlons de Jeanne d'Herouin, D-E-R-O-I-N, la féministe socialiste française, la première française à se présenter aux élections législatives en 1849. Elle est née le 31 décembre 1805 à Paris. Elle apprend à lire seule, en autodidacte, parce que sa mère a préféré lui faire apprendre la couture plutôt que la lecture. À 25 ans, elle est obligée de travailler comme ouvrière lingère, mais elle a l'esprit curieux et éveillé. Pour rappel, 1830, c'est la monarchie de Juillet. La bourgeoisie détient le pouvoir économique et politique après la révolution populaire des 27, 28 et 29 juillet, appelée les Trois Glorieuses. Jeanne s'engage auprès des adeptes du courant politique fondé par Henri de Saint-Simon, un philosophe économiste prônant la fraternité et la production industrielle, qui voit dans le travail le lieu où l'homme se réalise. Ce courant est chrétien. Il faut régénérer la religion pour organiser la société dans l'intérêt du plus grand nombre et pas du plus petit nombre. Jeanne d'Herouin croit au progrès de l'industrie, ce progrès qui apportera le bonheur, la liberté et la prospérité. Mais la question féminine est pratiquement absente de ce mouvement. Aussi, en 1831, elle adresse aux Saint-Simoniens, c'est comme ça qu'on les appelle, une profession de foi critique dans laquelle elle s'interroge sur l'existence des différences entre les deux sexes et les causes de l'assujettissement des femmes. Voici ce qu'elle écrit. Je cite, « L'éducation de la femme est dirigée de manière à comprimer toutes ses facultés morales et intellectuelles. On veut lui persuader qu'elle est inférieure à l'homme. On lui inspire des goûts frivoles, on lui insinue que le don de charmer, l'art de plaire, doivent être les seuls objets de ses vœux, l'unique but de toutes ses actions. » Elle contribue à La Femme Libre, premier journal féministe, puis au journal L'Opinion des Femmes, dans lequel elle lance un appel aux femmes, un plaidoyer contre leur soumission, comme l'avait fait Olympe de Gouges avant elle en 1791, quand elle s'écriait « Femmes, réveillez-vous ». Je cite à nouveau Jeanne. Lorsque tous les peuples s'agitent au nom de la liberté et que le prolétaire réclame son affranchissement, nous, les femmes, resterons-nous passives devant ce grand mouvement d'émancipation sociale qui s'opère sous nos yeux? Notre sort est-il tellement heureux que nous n'ayons rien à réclamer? Refusons pour époux tout homme qui n'est pas assez généreux pour consentir à partager son pouvoir. Nous voulons le mariage dans l'égalité, plutôt le célibat que l'esclavage. Elle ne mâche pas ses mots. Elle dénonce aussi cette coutume qui oblige la femme à porter le nom de son mari. En 1832, à 27 ans, elle épouse civilement un Saint-Simonien, Antoine Ulysse Desroches, mais appliquant ses idées, elle refuse de prendre son nom et insiste lors de la cérémonie sur son statut d'égale au sein du foyer. Elle a trois enfants, dont l'un gravement handicapé. Elle se consacra à leur éducation pendant plus de 10 ans. C'est une période qu'elle met à profit pour combler son retard d'instruction et ainsi passer son brevet d'institutrice. Elle crée alors une école pour y instruire les enfants de pauvres en même temps que les siens. Politiquement, la France d'alors, gouvernée par le ministre Guizot, autoritaire, conservateur, hostile à toute idée de réforme progressiste, plonge dans la répression et la censure, les femmes sont réduites au silence jusqu'à la révolution de février 1848 qui aboutit à la Seconde République de février 1848 à décembre 1851, pendant 4 ans. C'est à ce moment que débute la vie militante de Jeanne d'Herouin. Elle s'y engage avec d'autres, telles Pauline Roland ou Suzanne Voilquin, fréquente les clubs de femmes et fonde le club de l'émancipation des femmes avec Eugénie Niboyer. Elle écrit dans le journal La Voix des femmes, plaidant pour des salaires plus équitables, l'éducation des femmes, des crèches, le droit au divorce. Le divorce, autorisé en 1792 par la Révolution, a été abrogé sous la Restauration en 1816 par une assemblée ultra-royaliste conservatrice. Le divorce ne sera rétabli qu'à la fin du XIXe siècle par la loi dite Naquet du 27 juillet 1884. Elle revendique aussi pour les femmes le droit de vote. Rappelons que la Seconde République décréta le 25 février 1848 l'élection d'une assemblée constituante, l'équivalent de notre Assemblée nationale, à une assemblée constituante composée de 900 représentants élus au suffrage universel. Ce qui veut dire que tout Français âgé de 21 ans était électeur. Tout Français âgé de 25 ans était éligible. Les députés furent désormais non plus les représentants d'une minorité de gens riches, mais les représentants du peuple entier. Enfin, pas tout à fait entier, car ce suffrage dit universel ne s'adressait qu'à la moitié de la population du pays. Aux hommes, l'autre moitié, les femmes, n'étaient pas concernées. La question du droit de vote aux femmes ne se posait même pas à cette époque. Condorcet, cependant, l'avait proposé dès 1792. Jeanne de Rouen est la première à accoler le mot « masculin » à l'expression « suffrage universel ». Pour rappel, les Françaises n'ont obtenu ce droit de vote qu'en 1944, près de 100 ans après. Aux élections de l'Assemblée constituante du 23 avril 1848, Jeanne suggère à Georges Sand et Pauline Roland de poser leur candidature, mais elles refusent. Elles ne sont manifestement pas prêtes à entrer dans cette arène. Jeanne de Rouen, quant à elle, affronte Pierre-Joseph Proudhon, économiste politique et sociologue. Pour lui, les femmes ne doivent s'occuper que de leur maison, leur foyer domestique, tandis que les hommes sont faits pour la vie politique et publique. Il explique que, je cite, « quand ça ira mieux, comme on nous le dit encore aujourd'hui, quand ça ira mieux, on pourra peut-être y penser, mais pour le moment, il faut se contenter de cette répartition des tâches ». À sa suite, les socialistes acceptent les privilèges masculins dans le droit au travail et le droit politique. Mais Jeanne continue de développer ses théories féministes dans les journaux. En avril 1849, elle fait un coup d'éclat. Elle décide de se présenter à l'élection de l'Assemblée législative qui devait succéder à l'Assemblée constituante qui s'est autodissoute. Elle a peu de soutien, même dans son propre camp, les socialistes. On la ridiculise. Les caricaturistes, comme Honoré Daumier, se moquent des féministes, les appellent « bas bleus, divorceuses, femmes socialistes », présentant leur émancipation comme une catastrophe pour l'ordre domestique. Georges Sand et Marie Dagout, les écrivaines, estiment cette candidature déplacée. Elle sait bien, Jeanne, qu'elle ne sera pas élue, mais elle cherche avant tout à faire valoir les droits des femmes, à faire entendre leur voix, au nom, dit-elle, de l'universalité vraie, car comme on l'a vu, ce suffrage dit universel ne l'était pas. Elle affirme « La Constitution de 1848 a légalement aboli les privilèges de race, de caste et de fortune, mais le privilège de sexe est resté sous-entendu dans cette Constitution ». L'argument de l'inconstitutionnalité de sa candidature est souvent avancé. Sa campagne dérange, car elle révèle un paradoxe. C'est au nom des grands principes républicains, liberté, égalité, fraternité, qui n'admettent pas l'exclusion injuste, que je me présente comme candidate à l'Assemblée législative, dit-elle. Elle ne fut pas élue, bien sûr. À partir d'août 1849, elle conçoit avec d'autres une union pour regrouper plus de 100 associations ouvrières, l'Union des associations de travailleurs. Mais cette union inquiète le patronat. Elle est accusée de propagande socialiste. Considérée comme un lieu de conspiration, l'union voit ses locaux envahis par les policiers le 29 mai 1850. 46 personnes sont arrêtées. Jeanne de Rouen est emprisonnée pendant 6 mois, accusée de propager des idées subversives, entre guillemets. Pendant son emprisonnement, elle adresse en février 1851 une lettre à l'Assemblée législative pour protester contre un projet visant à restreindre le droit de pétitionner pour les hommes et à le supprimer carrément pour les femmes. À sa sortie de prison, elle vit des leçons qu'elle donne et continue de militer en faveur de l'émancipation des femmes et de l'affranchissement des travailleurs. Mais après la réussite du coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon le Petit, comme l'appelait Victor Hugo, menacée d'arrestation, en proie aux tracasseries de la police, elle s'exile en Angleterre en août 1852. On sait que Victor Hugo lui-même fit partie des 84 députés expulsés de France et qu'il s'est exilé lui aussi sur l'île de Guernesey pendant 20 ans. Il rentrera en France après la chute de l'Empire en 1870, mais pas Jeanne. Elle ne participera pas en France à la Révolution populaire de la Commune de Paris en 1871 et sa répression sanglante. Elle ne verra pas la guerre franco-allemande ni l'avènement de la Troisième République en 1879. À Londres, où elle a du mal à subvenir aux besoins de sa famille, elle poursuit son activité d'enseignante et continue à défendre ses idées. Elle correspond avec une féministe plus jeune, Hubertine Auclair, la suffragiste que nous avons vue dans la première série. Bien qu'ayant reçu une petite pension de la République française grâce à l'action d'anciens exilés, elle meurt dans la pauvreté le 2 avril 1894 à 88 ans. Elle était une socialiste féministe passionnée qui exprimait ses idées d'une manière intransigeante, tranchante, sans être révolutionnaire, admirant ce qu'elle appelait la solidarité sociale. Mais son combat ne fut pas vain. Plus tard, il fut repris par d'autres femmes exceptionnelles de notre matrimoine, que nous avons vues dans la première série de portraits, telles Louise Michel, la communarde de 1871, ou Hubertine Auclair, ou encore Séverine, qui ont lutté pour le droit de vote des femmes notamment, mais aussi leur indépendance financière, bref, leur émancipation, encore et toujours. Peut-être une dernière citation à méditer de notre héroïne. Ne formons plus deux camps, celui des femmes du peuple et celui des femmes de la classe privilégiée. Formons une union solide.
Vos sources, Jacqueline.
Oui, alors mes sources. Femmes et République, un ouvrage collectif préfacé par l'historienne Michèle Perrault, édition La Documentation française, 2020. Histoire de la France de 1774 à 1851 de Mallet Isaac, librairie Hachette, 1920. Histoire de la philosophie de Jacqueline Russe, librairie Attier, 1998.
Merci Jacqueline, à la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.